France Inter.
France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. À chaque nouvelle semaine, un nouveau département de France, c'est la Haute-Garonne qui est à l'honneur à partir d'aujourd'hui. Et nous parlons d'abord dans les carnets d'une initiative unique en France, une maison consacrée à la ménopause à Toulouse. Ensuite, je vous raconte la nouvelle vie d'une colonie de vacances, pas loin du pic de Cagir, en pays de Comminges. Un collectif de citoyens et de citoyennes a racheté les murs pour en faire une résidence d'artistes et d'artisans, un lieu de vie baptisé la Colo du Cagir. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
Saluons l'ouverture de la maison Simone. Très belle initiative à Toulouse. Une maison consacrée à la ménopause et à la périménopause où les femmes concernées peuvent consulter un médecin mais aussi avoir accès à des soins paramédicaux et à des activités variées pour soulager les symptômes de la ménopause. Bonjour Marie-Pierre Bizarro.
Bonjour Dorothée.
Bienvenue dans les carnets, vous êtes la fondatrice de la maison Simone. Alors la ménopause, c'est la période qui suit l'arrêt des règles, ça concerne 17 millions de femmes en France, il est bon de le rappeler. La périménopause, c'est la période qui précède la ménopause. Pourquoi avez-vous décidé de leur consacrer une maison, Marie-Pierre ?
Alors l'idée de consacrer une maison, c'est qu'à la fois cette période d'abord concerne toutes les femmes, vous avez vu, vous l'avez dit vous-même, un nombre significatif de femmes, et surtout même si cette période peut être libératoire, elle peut être aussi très perturbatrice, puisque 80% des femmes disent avoir un symptôme qui gâche leur qualité de vie. Du coup, ça vaut le coup de pouvoir proposer des solutions, parce que c'est vrai que certaines femmes peuvent être un peu fataliste par rapport à cette période et se dire « bon ben c'est comme ça, c'est la ménopause ». Or, des solutions existent, des praticiens s'y intéressent vraiment, et donc on a voulu, au travers de Maison Simone, proposer des solutions concrètes et pouvoir accompagner au quotidien les femmes dans cette période.
Que trouve-t-on concrètement à la Maison Simone ?
Alors, il y a deux espaces chez Maison Simone. Le premier espace, qui est la colonne vertébrale de Maison Simone, c'est l'espace médical et paramédical, où interviennent des gynécologues. Il y a trois gynécologues. Nous avons deux diététiciennes parce que à cette période, on métabolise pas de la même façon. On perd aussi du muscle, donc c'est important de revoir son alimentation. Il y a aussi une psychologue. Pouvoir poser des mots sur les maux de cette période, c'est aussi un facteur important et libératoire. Et puis, on a des généralistes. Généralistes qui font du suivi gynécologique et s'intéressent surtout aux facteurs de prévention cardiovasculaire et ostéoporose de cette période-là.
Donc ça, c'est pour la partie médicale.
Voilà, c'est la partie consultation. Mmh. Et puis ensuite, on a un autre espace qui s'appelle les moments Simone, où on trouve une réflexologue qui est infirmière et donc qui va agir et accompagner les femmes sur tout ce qui est prise en charge de la douleur, perte de sommeil. Ensuite, on a un sophrologue qui fait aussi des massages ayurvédiques. Et donc, ces personnes vont accompagner aussi tout ce qui est gestion du stress. Et on sait aujourd'hui que le stress est très délétère sur tout ce qui est inflammatoire, tout ce qui est sommeil. On a aussi une ancienne kiné qui fait de la posturologie et du travail viscéral. Très souvent, on a tendance à modifier sa posture l'âge avançant. Et donc, elle regarde ça, comment est-ce qu'on peut le corriger. Et modifier sa posture, c'est souvent compresser aussi les viscères et donc ce qui entraîne des troubles. Elle va agir sur cet aspect-là. Et puis, on a un espace sport. On sait que le sport, c'est vraiment essentiel pour, pareil, prévenir les maladies cardiovasculaires, prévenir l'ostéoporose et puis garder sa vitalité le plus longtemps possible. Voilà, donc ça, c'est aussi un axe important pour se sentir bien. En fait, on a deux missions, c'est-à-dire soulager les symptômes immédiats et puis surtout faire en sorte qu'on maintienne notre vitalité le plus longtemps possible. C'est ça qui est important.
Les symptômes de la ménopause, on le sait peu, hein, mais ils sont très nombreux. Il n'y a pas seulement les bouffées de chaleur, Marie-Pierre.
Oui, les bouffées de chaleur, c'est souvent ce dont on parle le plus avec la prise de poids, mais on décrit jusqu'à 36 symptômes de la ménopause. Et donc, on n'est pas toutes égales, on n'a pas toutes le même cocktail. Et notamment, on peut parler du SGUM, le syndrome génito-urinaire de la femme ménopausée. dont on parle beaucoup moins parce qu'il est beaucoup plus intime. Et pourtant, il est lourd de conséquences dans la vie intime des femmes. Donc, ça concerne la sécheresse vaginale qui induit des tas de troubles et de tas de gènes. Les incontinences d'effort qui, si elles ne sont pas prises en charge, peuvent donner des incontinences plus graves et privées d'une vie sociale libre un peu plus tard. Et donc, pour ça, on a un plateau technique spécifique. Nos médecins gynécologues peuvent faire du laser CO2, de la LED gynécologique ou des injections d'acide hyaluronique, qui sont des techniques qui sont très efficaces pour soulager les femmes dans cette période-là.
Votre maison est toute récente, hein, elle a ouvert au printemps. Est-ce que vous avez déjà un souvenir marquant à me raconter ?
Le plus réjouissant, en tous les cas, et le satisfaisant pour nous et pour les praticiens, c'est les merci et les remerciements que l'on reçoit quotidiennement des femmes qui remercient les praticiens, parfois avec des larmes aux yeux. Donc ça, c'est toujours extrêmement touchant. Et le soir, on se dit qu'on n'a pas fait tout ça pour rien. Et puis, on a pu voir des femmes arriver un peu partout en France. Donc j'avoue qu'on ne s'attendait pas forcément à ça.
Ah oui, ça prouve que ça manque ailleurs, hein, une initiative pareille.
Forcément, oui, ça prouve surtout que les femmes sont à la recherche de solutions et que c'est pas toujours simple pour elles d'en trouver.
Est-ce qu'il y a d'autres centres similaires ailleurs en France, à votre connaissance ?
Alors, il y a des centres à l'hôpital, il y a des consultations ménopause qui existent. D'ailleurs, l'hôpital de Toulouse a été précurseur et référent en ce domaine. En initiative privée, il y a des centres de la femme qui s'intéressent à la femme dans sa globalité. Je n'en connais pas qui soient proprement dédiés à cette période-là. Et pour moi, c'était important parce que plus on est dédié, plus on a de l'expertise dans ce domaine. Et donc, c'est ce qui permet une bonne prise en charge.
Et ce nom, au fait, la maison Simone, c'est un hommage à Simone de Beauvoir ?
Alors oui, bien sûr, mais c'est aussi une histoire personnelle. Simone, c'est le prénom de ma grand-mère maternelle qui a eu des mots qui m'ont éduquée. Et donc, voilà, pour moi, c'est un hommage personnel. Et bien sûr, j'ai choisi le prénom et je suis allée plus loin dans la création de Maison Simone parce que c'est un prénom fort pour les femmes. Simone de Beauvoir, Simone Veil, la philosophe, c'est pour moi, ça traduit la femme qui défend ses droits, qui s'assume en tant que femme. Donc, je trouve que c'est important.
La Maison Simone, c'est à Toulouse. Merci beaucoup, Marie-Pierre Bizarro.
Merci à vous.
Et bonne journée. Au revoir.
Merci, vous aussi, à très bientôt.
France Inter, carnet de campagne.
Et nous quittons Toulouse pour le pays de Comminges. Nous voici dans le village rural de Jusey d'Izot, dans un vaste bâtiment. Si les murs pouvaient parler, ils raconteraient les amitiés intenses des vacances, les rires dans les dortoirs et dans le réfectoire, car ce bâtiment est une ancienne colo, une colonie de vacances qui appartenait à Air France, qui a été abandonnée il y a quelques années, et rachetée en 2023 par un collectif citoyen pour être transformée en un lieu de vie. Bonjour Laurent Cloarec.
Bonjour.
Bienvenue dans les carnets, vous êtes l'un des responsables du collectif La Colo du Cagir. Est-ce que je peux vous demander une visite des lieux d'abord ? À quoi ressemblent ces bâtiments et dans quel paysage sont-ils installés ?
Alors, comme vous l'avez très bien dit, donc c'est une ancienne colonie de vacances qui est en plein milieu d'un village, d'un petit village qui fait 180 habitants, donc Jusey d'Izot. Elle est précédée, quand on arrive par le bas, d'un parc, d'un grand parc, et elle est composée principalement de trois bâtiments, dont nous sommes propriétaires de deux. Et donc il y a le grand bâtiment qui s'appelle le château, dans lequel il y avait les dortoirs, les cuisines, etc. Et puis il y a une petite villa très début de 20e siècle, annexe, dans laquelle nous avons en l'occurrence installé des artisans et des artistes dans des ateliers mis à disposition.
Depuis combien de temps le site était-il à l'abandon quand votre collectif citoyen l'a racheté ?
À peu près 9 ans. Donc, certaines parties étaient malgré tout en bon état et d'autres plus dégradées.
Alors, quelle est la raison d'être de ce collectif, la Colo du Cagir ? Et comment est-ce que vous pourriez résumer la philosophie des lieux ?
Alors, avant d'être des locaux, en l'occurrence, à cette colonie vacances, c'est un collectif de gens qui avaient envie de valoriser la mise en commun, l'échange de pratiques, de savoir-faire, et aussi de répondre à des besoins par rapport au territoire, des besoins de restauration du lien social, de mise en relation de personnes de différentes origines sociales et culturelles. Et donc, c'est un groupe un peu d'amis qui, depuis l'été 2021, s'était mis sur la base de ce projet en recherche d'un local et qui a eu un peu le coup de foudre pour cette ancienne colonie. Il y a un groupe qui travaille à la reconstitution d'un verger, il y a un groupe qui travaille à la constitution d'une médiathèque. Et puis, donc, on héberge des activités de certains artistes et artisans, on organise des ateliers, des stages, et le tout avec une grande volonté de communication horizontale. Il n'y a pas de responsable unique, il y a une animation collégiale, et les décisions se prennent par consentement après le temps qu'il faut pour se mettre d'accord sur les décisions.
Oui, c'est un peu plus long hein, quand il n'y a pas de chef.
Oui, c'est plus long, mais bon, tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin.
Exactement. La colo du Cagir est aussi le siège d'une chorale féministe, paraît-il.
Oui, bien, ça fait partie des activités culturelles que nous hébergeons. Voilà, nous n'avons pas encore à disposition, à cause des problèmes d'état, des lieux ou de travaux à faire ou de sécurité, on peut pas ouvrir tous les espaces, mais dans une petite salle polyvalente dans laquelle nous pouvons d'ores et déjà accueillir ces activités, il y a effectivement, entre autres, une chorale féministe qui répète. C'est là aussi qu'on fait un certain nombre de petits ateliers d'autres types. Moi, j'ai même personnellement fait des ateliers d'initiation à la danse. Il va y avoir peut-être un atelier d'écriture, il va y avoir un atelier aussi d'art plastique. Voilà, c'est le genre d'activité qu'on peut faire.
Vous avez organisé une fête du pastoralisme le week-end dernier, le 1er novembre. Et à présent, vous faites une petite pause hivernale, hein, c'est ça? Les projets vont reprendre au printemps?
Oui, parce qu'on manque encore de grands espaces pour accueillir en intérieur. Et beaucoup de nos événements culturels sont organisés en extérieur. Donc, on a fait cet automne une grande fête de la colo le 27 septembre. On vient d'avoir la deuxième fête du pastoralisme. On avait fait deux fêtes de la musique en 2023 et 2024. Mais là, on va rentrer dans une période peut-être plus froide et plus pluvieuse. Donc, on se replie, quoi.
Tout le monde est bénévole hein, dans votre collectif. Est-ce que vous avez besoin de renforts de bénévoles, Laurent ?
Oui, tout à fait, pour garantir, par exemple, le bon déroulement de nos événements. Il y a quand même souvent dans le public, on compte 400 à 500 personnes et on n'est jamais assez nombreux pour que ça se fasse dans les meilleures conditions possibles. Ou ce dont j'ai parlé, c'est-à-dire le verger, la remise en état du verger ou la constitution de la médiathèque.
Est-ce que vous diriez que les effets de ce collectif sont visibles sur le territoire ? Est-ce que la colo du Cagir fait du bien au coin, d'après vous ?
En tout cas, c'est un de nos objectifs essentiels. Je pense que, par exemple, quand on a fait ces fêtes du pastoralisme, oui, ça faisait du bien parce que ça permettait à différents publics, différentes générations, différents milieux de se rencontrer et de, entre guillemets, communier, en l'occurrence, dans la bonne humeur et la joie. Donc, je pense qu'on contribue à faire ce lien qu'on cherche absolument à rétablir ou à étendre dans notre territoire.
Pourquoi avait-il disparu, ce lien ?
Il n'a pas totalement disparu, heureusement, mais si vous voulez, il est toujours menacé par certaines problématiques de fond qui ne sont pas spécifiques à notre territoire, des questions économiques ou sociales qui font que les gens sont un peu confrontés à des difficultés. Il y a les déserts, la question des déserts médicaux, la disparition de certains services publics et dans la foulée des postures un peu peut-être de repli sur soi. Et nous, au contraire, on cherche à ce que les gens se rencontrent, à ce que les gens échangent. Et voilà, je pense que à notre petite mesure, avec nos petits moyens, on y arrive en partie.
La colo du Cagir, c'est donc à Juzet-d'Izot, en Haute-Garonne. Merci Laurent Cloarec et bonne journée.
Merci de votre attention.
Sachez que les Pyrénées-Atlantiques et l'Essonne seront bientôt au programme des carnets. Vous pouvez nous écrire pour signaler des initiatives dans ces deux départements. Et puis je voulais vous donner des nouvelles de la Barque 38, association basée en Isère dont nous avons parlé récemment, qui propose aux détenus de les accompagner dans leur permission de sortie de prison, par exemple pour se rendre à un rendez-vous médical ou à un entretien d'embauche. Jean-Luc Duvillier, l'un des bénévoles de cet asso, mon invité, était très émouvant et son intervention a fait des émules. L'association avait besoin de plus de bénévoles. Elle a reçu une quinzaine de candidatures après l'émission. Merci pour eux.